102.1
avec Jeff Fortin et Pascal CV.
Très belle journée sur Québec, 19 degrés à 1h, à 13h14 minutes exactement ce 28 avril, 17 degrés demain avec 40% de possibilité d'averse. Après ça, on a une séquence de pluie, les amis, à compter de jeudi. Et là, Pascal, je capote parce qu'on me dit dimanche, 9 degrés, possibilité d'averse de pluie ou de neige. Je cours le demi-marathon à Lévis.
Ah non, non, non,
sur
non.
Le bord du fleuve.
Je te souhaite pas ça, non, par exemple.
Faudrait
ça peut être annulé, si, mettons.
Oui, vraiment, en cas de température extrême, oui.
Puis ça, c'est-tu extrême, la neige, quand tu fais un marathon?
Je pense pas.
Non?
On verra.
Ça peut être une expérience tout à fait exceptionnelle aussi, là.
Qui vivra, verra.
Toi, tu vas le vivre et tu vas nous le raconter.
Exactement. En attendant de parler à Rémi Villemur, oui. Rappelle-nous les trois nouvelles principales de la journée, Pascal.
Ben, je vais avec un petit rappel de la mise à jour économique. On en a parlé tantôt avec Emmanuel Latraverse, mais quand même, je veux ramener au fait que le ministre fédéral des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, présente sa mise à jour économique du printemps. Donc, pour justement apporter quelques précisions sur le déficit, là, on y va comme ça. C'est sûr que c'est encore un déficit. On espère qu'il soit un peu moindre, mais on ne faut pas s'attendre à de grandes consécrations économiques là, à ce niveau-là aujourd'hui. Hier s'ouvrait l'enquête publique du coroner concernant le décès tragique de Maëline Luger, 13 ans. Elle s'est retrouvée sans vie dans un boisé à proximité de son école secondaire en novembre 2024 à Lévis. Puis tout le monde avait été touché par cette histoire-là. À la base, la thèse de la noyade accidentelle avait été privilégiée, mais ça a rapidement été remis en question hier. On a parlé de l'aspect psychiatrique et c'est ça qui avait été carrément laissé de côté dans le premier rapport réalisé par une autre coroner et là qui est abordé devant le coroner Luc Malouin. Aujourd'hui, stupéfaction quand on a appris qu'elle avait envoyé le jour de sa disparition des textos qui en disaient beaucoup sur le fait qu'elle allait passer à l'acte cette journée-là. Et textos qui se ramassent pour la première fois dans les discussions. La police de Lévis n'aurait pas mis les textos dans leur déposition. Et là, c'est ce que rabroue le coroner Luc Malouin en disant, ben voyons, pourquoi vous n'aviez pas ces éléments-là? La police se défend en disant, si on les avait eus, on les aurait mis dans nos dossiers. Et ce qu'on apprend en plus, c'est qu'il y a eu deux policiers à l'école qui auraient eu les informations le lendemain de sa disparition. Alors, qui dit vrai? Pourquoi ça ne s'est pas ramassé dans les papiers policiers? Là, va falloir éclaircir tout ça. Les audiences vont se poursuivre toute la semaine. On a le nom de la diplomate choisie par la CAQ pour représenter la province dans les négociations de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Elle s'appelle Louise Blais. Elle a été choisie par Christine Fréchette-Bernard Drainville. On vante son expérience au sein d'institutions multilatérales et de relations bilatérales qui lui ont permis d'acquérir une solide expertise en gouvernance mondiale. Donc, en gros, elle est bonne en négociation internationale, en politique commerciale et en développement économique. Ce serait pour ça qu'on l'a choisie. Et je termine peut-être avec cette grande annonce qui a été faite du Parti libéral du Québec. Bon, c'est Charles Millière qui avance qu'on veut rembourser aux acheteurs de construction neuve 36% de la taxe de vente du Québec jusqu'à concurrence de 10 000 $
Au sport, Bruins Sabres, c'est 3-1 pour les Sabres dans la série. Ils pourraient mettre fin justement à cette série à domicile. C'est à 19h30 ce soir, 20h. Égalité 2-2 dans la série entre le Wild et les Stars, c'est le cinquième match. Et 22h, les Oilers d'Edmonton vont tenter d'éviter l'élimination en accueillant les Ducks d'Anaheim. On va rejoindre immédiatement animateur au 99.5 Montréal du lundi au jeudi de 18h à 19h et les samedis matins de 8h à 10h. Et chroniqueur dans On en jase les mardis et jeudis, Rémi Villemur, comment vas-tu?
Très bien, vous deux.
Ça va super
très bien.
Rémi, on avait parlé de ton premier sujet vendredi en onde de cette annulation de la présentation du documentaire Génération Trans de Jean-Pierre Roy au cinéma Cartier ici à Québec. Je te laisse entendre ce qu'il a dit sur les ondes de LCN vendredi dernier et par la suite, on en discute.
Au Québec, ce qui est très particulier, c'est qu'à partir de 14 ans, l'enfant est autonome dans sa décision. Il peut décider lui-même, sans l'approbation des parents, de recevoir des traitements hormonaux et dès 16 ans, recevoir des opérations chirurgicales. Donc, pour une jeune fille à 16 ans, tout seul, peut décider de se faire enlever les seins. Et je questionne donc cette liberté décisionnelle à partir de 14 ans. Et c'est le cœur du film.
Rémi, alcool, cigarette, 18 ans, on est en train de parler au Québec pour les moins de 16 ans. Pas de boissons énergisantes, pas de médias sociaux, mais à 14 ans, tu peux choisir de changer de sexe. Je trouve que d'en parler, c'est tout simplement un débat qui est sain.
Oui, puis moi, j'ai vu le film parce qu'il y a eu une première à Montréal qui a été organisée. Puis,
oui.
On m'avait invité, puis on m'avait dit, on va vous envoyer l'adresse à la dernière minute parce que c'est de plus en plus ce qui se passe quand il y a des films ou des conférences ou enfin des rassemblements qui impliquent des gens qui ont des idées qui ne plaisent pas à un certain nombre de personnes. Alors, on essaie d'éviter que l'événement ne soit perturbé, exactement comme ça a été le cas finalement à Québec. Moi, j'ai vu donc le film, puis c'est un film, bon, soyons honnêtes, là, le documentariste a un parti pris, mais il donne la parole à beaucoup de gens qui ne pensent pas comme lui dans le film. Je l'ai vu, le film. Et chose que n'ont pas vu les gens qui ont voulu perturber l'événement. Et il est là le problème, parce qu'en fait, souvent, on perturbe quelque chose sans savoir de quoi c'est fait, de
En
quoi,
effet.
qu'est-ce que ça comporte. Et ça comporte vraiment, ce film-là, une démarche qui est honnête. C'est-à-dire qu'on a tous le droit d'avoir des opinions, puis le documentariste ne fait pas semblant de ne pas en avoir. Parce que moi, je ne crois pas au journalisme objectif. D'accord? Je le répète, ça n'existe pas. On a tous des opinions, on a tous des valeurs, des principes. Il y en a qui les cachent mieux que d'autres, et je salue ça, ça prend du talent, mais on en a tous. Alors, quand on l'assume, mais qu'on a une démarche, qui est la démarche qui consiste à donner la parole aux autres, ben, je pense qu'on remplit toutes les cases là, de ce que ça constitue le journalisme. Dans ce film-là, et c'est peut-être ça qui dérangeait peut-être des gens qui s'imaginaient bien que ça allait se retrouver là-dedans, on découvre des histoires absolument abracadabrantes. Tu parles par exemple de jeunes de 14 ans qui ne peuvent pas acheter de cigarettes, qui ne peuvent pas acheter une bière, mais qui peuvent changer de sexe. Dans le film, on raconte l'histoire notamment d'un enfant qui se fait dire par des gens à l'école de cacher ce qu'il est en train de traverser à sa mère. Et pendant les heures de classe, il y a quelqu'un qui emmène cet enfant-là voir un médecin qui lui prescrit des hormones pendant des heures de classe.
C'est
Parce
épouvantable.
Est-ce que c'est parce que le parent est connu comme étant, par exemple, violent face à cette idée-là, complètement récalcitrant, complètement déplacé envers son enfant? Y a-t-il cette donnée-là?
Non, mais dans mon souvenir, c'est une mère, le parent, puis la mère a des questions, doute disons, de la validité de ce sentiment-là chez son enfant de 14 ans. Donc, je pense que ça serait le cas de n'importe quel parent. Là, vous apprenez ça de votre enfant, le premier réflexe, c'est de se dire, OK, il a peut-être entendu quelque chose, il a peut-être été sensible à une certaine forme d'idée qui circule, à une tendance, peut-être qu'il est perdu. Mais, je veux dire, imaginez-vous, là, votre enfant se fait emmener par un employé d'un centre de service scolaire chez un médecin qui lui prescrit, sans que vous en soyez au courant, là.
Off.
Donc, ça se passe au Québec et c'est rapporté dans le documentaire. Et donc, j'imagine que ça a dérangé des gens qui ne veulent pas de cette discussion-là, qui ne veulent pas qu'il y ait la conversation, qui veulent que soit maintenu cette espèce de régime de terreur, on pense comme ça, puis on va aller de l'avant, puis il n'y a personne qui va pouvoir même se poser comme ça, comme contradicteur dans la conversation. Moi, je suis pour toutes les idées. Je fais confiance à l'intelligence des gens. Je pense que les gens peuvent aller voir ce film-là, être critiques de la démarche du cinéaste ou du réalisateur. Moi, quand je suis sorti de là, je ne trouvais pas que ça avait été parfait comme film. OK? Je vous le dis moi-même, il y a un parti pris, sauf qu'il y a toujours aussi un parti pris de l'autre côté. C'est le parti pris de l'autre côté qui passe sans problème. Mais quand c'est un parti pris de l'autre bord, ah ben là, ça pose un problème.
Ben en effet, parce que tu es mis à part quelques médias comme le nôtre qui mentionnent justement que ça n'a pas de sens d'avoir annulé la présentation Cinéma Quartier, il n'y a personne qui ose prendre la parole et dire hey, ces activistes-là, là, qui refusent la présentation du documentaire Génération Trans sont dans le champ, sont complètement dans l'autre extrême. On dirait qu'on ne peut pas dire ça au
Mais
Québec.
on dirait qu'on se nuit puis on réalise pas
Oui.
qu'on se nuit en n'ayant pas les débats adéquats sur des grandes questions de société qui sont importantes dans la conception aussi du cerveau, du développement de tes idées.
Clairement.
Puis c'est pas d'être complètement fermé là, à ce genre de transformation-là ou encore transition, comme c'est juste de se poser les bonnes questions. Mais si le débat est fermé avant même de l'avoir, il est là le problème.
Mais le problème aussi, puis je pense qu'on l'observe un peu partout en ce moment-là, il y a des gens qui ne tolèrent pas qu'on ait des idées qui ne soient pas les leurs, donc qui décident d'utiliser de la violence. On a vu ça à Montréal, il y a un homme qui s'appelle Alexandre Cormier-Denis, avec lequel je ne suis pas d'accord sur à peu près 99% de ce qu'il avance, d'accord? Il s'est fait attaquer dans la rue. On a vu un Donald Trump se faire attaquer. Alors, normalement, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, et que votre idée est la meilleure, vous ne devriez pas avoir besoin de la violence pour la faire valoir. Parce que si votre idée est la meilleure, normalement, il y a une majorité de personnes qui sont derrière vous à penser la même
Ben
chose que
oui.
vous. Donc, on dirait que L'exercice qui consiste à contredire le contradicteur ne parvient pas à ses fins, donc on utilise la violence pour s'imposer. Mais vous savez, en avant, j'en ai contre ça, j'en ai contre cette démarche-là, mais j'en ai surtout contre elle parce qu'elle donne rien. On donne toujours du gaz à celui qui est victime de violence. Regardez Donald Trump, regardez les sondages dans les prochaines semaines. Ça risque de monter. Donc, si vous n'aimez pas Donald Trump, utiliser de la violence contre lui, ça n'aide en rien la cause. Même chose pour certaines personnes qui sont victimes d'attaques comme ça. On leur donne un micro, ils viennent s'expliquer parce que c'est une nouvelle. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ça leur donne encore plus d'importance et d'espace. Donc, c'est une stratégie qui ne marche pas, elle ne fonctionne pas.
En effet, tu as entièrement raison. Puis moi, ben coudonc, j'aimerais débattre avec les gens de justement cet âge de 14 ans que je trouve très jeune pour prendre cette décision-là, sans être accompagné de professionnels et sans être accompagné de ses parents. Hey, parlant de catégoriser les gens, Rémi, coudonc, il y a des bons puis il y a des mauvais souverainistes. Et là, Alexandre Boulris tombe dans le camp des mauvais souverainistes. Pourtant, sur nos ondes ce matin, il m'a expliqué sa démarche.
1995, j'ai milité puis j'ai voté oui en 1995, donc c'est rien de nouveau. Puis tout le monde au NPD le savait, Jack Layton évidemment à l'époque. Mais j'étais à l'aise au NPD parce qu'il y avait la reconnaissance de la nation québécoise, le fait que c'est les Québécois et Québécoises qui allaient décider de leur avenir politique. Il fallait respecter cette décision-là. Toute la déclaration de Sherbrooke avec le fédéralisme asymétrique, donc ça permettait à des Québécois comme moi de me sentir très à l'aise et d'aller jouer un rôle au fédéral en tendant la main aux progressistes du reste du Canada pour dire ben qu'est-ce qu'on peut faire ensemble jusqu'à temps que le Québec prenne une que les Québécois prennent une décision sur leur avenir politique.
Colin, Rémi, un souverainiste qui a décidé de pas aller au Bloc québécois pour défendre les intérêts du Québec, mais d'aller au NPD, puis là, au lieu d'aller au PQ, il va à Québec solidaire. C'est pas un vrai.
Non, mais je l'ai entendu hier à Radio-Canada expliquer pourquoi il n'allait pas au PQ, en tout cas.
Oui,
donc,
bien, c'est
concernant.
Beaucoup une question de division là, par rapport surtout à l'immigration, là.
Oui, c'est ça. Lui, c'est un progressiste, donc il ne se retrouve pas au PQ, puis c'est correct. Moi, vous savez, c'est drôle parce que j'ai regardé aux dernières nouvelles à quel niveau s'élevait le oui dans les sondages, et il oscille entre 30 et 35 %. Je trouve qu'il y a beaucoup de souverainistes qui jouent la fine bouche. Et qui ont des exigences assez particulières qui font leur difficile, finalement, quand quelqu'un, peut-être sur le tard, peut-être par opportunisme aussi, mais décide quand même d'être souverainiste, et j'espère que c'est tout ce qui compte à la fin. Donc, si le Parti québécois ou l'option du souverainiste, laissez faire le Parti québécois, si l'option souverainiste était à 55 % en ce moment dans les sondages, ben là, je pense qu'il y aurait peut-être moyen de faire, OK, toi, t'es pas un vrai votant, on n'a pas besoin de toi de toute façon. Je pense qu'on a besoin de tout le monde, là. On a besoin de tout le monde. C'est un peu là, je pense que c'est un petit peu ça d'où on part en ce moment. Et ça existe aussi, changer d'avis dans la vie. Donc, moi,
Oui.
je ne connais pas Alexandre Boulris. Je ne l'ai jamais eu dans ma face. Donc, je peux supposer, je peux regarder son pédigree, son parcours, puis faire OK, d'accord, tout porte à. Mais la vraie façon de vérifier si c'en est un, c'est de discuter avec. J'ai pas eu cette occasion-là. Donc, en attendant, je ne vais pas porter de jugement, je ne vais pas spéculer. Le gars, il s'en va dans un parti qui est souverainiste. Ben, je suis obligé de le
Bye.
croire.
Nous, on a eu cette opportunité-là ce matin de discuter avec lui. Et justement, il m'a expliqué qu'en 95, il était pour le oui, puis qu'il était toujours resté souverainiste. Et il a expliqué pourquoi il n'est pas allé au PQ.
C'est ça. Moi, que ce soit de la CAQ ou parfois du Parti québécois, j'aime pas quand on pointe du doigt puis on blâme. Tu sais, de dire, mais ça, c'est Boulet de la CAQ qui disait les immigrants veulent pas apprendre le français, ils veulent pas travailler puis ils veulent pas s'intégrer. Et wow, là, c'est pas vrai du tout, du tout, du tout. C'est pas ça dans la réalité.
Bon, ben, il a le droit d'être souverainiste, d'avoir des opinions contraires au PQ. Je respecte ça, moi.
Ben oui, tout à fait. Puis, de toute façon, quand il y aura, si le PQ prend le pouvoir et forme un gouvernement majoritaire, s'il y a un référendum, il faudra qu'il y ait des gens à gauche et qui soient représentés par des élus de l'Assemblée nationale pour que véritablement, aux yeux de la population qui trouve ça important qu'il y ait une coalition, et j'en suis, ben, on ait des gens qui soient les porte-parole de ce mouvement-là à l'Assemblée nationale. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. J'aimerais en réalité qu'il y en ait plus de souverainistes qui se déclarent, que ce soit sur le tard ou de cette façon-là, et qui est à Québec solidaire. Moi, il n'y en a pas de problème, vraiment. Puis, je comprends par contre l'hésitation. Il y a des gens qui disent, bon, ben, il trouvait ça plus important, le projet progressiste, que l'indépendance, et c'est pour ça qu'il était même au NPD. Mais regardez, on change de paradigme, la question nationale revient dans l'actualité, c'est possible de changer d'avis, puis bienvenue à tout le monde. Comme disait Parizeau, que le dernier entré laisse la porte ouverte derrière lui.
Et voilà, c'est très bien dit. Rémi Villemur, toujours un bonheur de te parler. On se reparle jeudi.
Bye-bye.
Salut, bonne soirée. Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal, du lundi au jeudi de 18h à 19h et par la suite le samedi de 8h à 10h avec Jacinthe-Ève Harel. Dans un instant, Boulevard 101, on parle des soins de santé en Chaudière-Appalaches. Grosse annonce de la ministre Sonia Bélanger. Mathias Turcotte était présent. Il nous résume le tout à l'émission N'en jase sur Boulevard 101.